L'énorme avantage de parler en dernier, c'est que comme à peu près toutes les choses intelligentes ont été dites avant vous, vous vous trouvez devant un exercice qui est finalement un exercice assez simple pour un romancier, qui consiste simplement à redire les mêmes choses en d'autres termes. C'est un exercice furieusement postmoderne auquel vous me proposez de me livrer. Je vais le faire avec grand plaisir. Quand Stéphane Audouin-Rouzeau m'a demandé de lire son livre, franchement, je n'étais pas très enthousiaste. Non, parce que je l'aime beaucoup. Il a été très, très bienveillant avec moi. Je ne voulais pas lui refuser un service. Mais franchement, lire ce livre, ça ne m'emballait pas beaucoup. D'abord parce que je finis par passer pour un ancien combattant, parce que j'ai, je ne sais pas, Jean, si vous avez eu la même chose. Enfin, moi, il y a 6 mois que ce livre est paru sur la guerre de 14, et j'ai l'impression qu'on me confond un peu avec un ancien combattant. Donc j'avais un peu l'impression que peut-être Stéphane Audouin-Rouzeau, lui aussi, me prenait pour un ancien combattant. Et donc, je n'étais pas très emballé, moi, par l'idée de lire un livre d'histoire. Je ne savais pas très bien quel statut ça avait, quoi. Est-ce que c'était un livre d'histoire ? Est-ce que c'était... Alors, j'avais entendu parler d'égo-histoire, tout ça. Bon, j'y comprends rien du tout. Donc je me suis dit, bon, je vais le lire pour ce qu'il est. Alors moi, ça m'a plu, parce que ce n'est pas du tout un bouquin d'histoire. Ça m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu parce que, en fait, ce qui était, je trouve, moi, le plus intéressant, c'était qu'avant tout, c'est un roman. Alors là, par contre, du coup, j'étais un petit peu plus dans une sphère où j'ai deux, trois choses à dire, c'est qu'au fond, à travers l'histoire de la Grande Guerre, Stéphane Audouin-Rouzeau nous raconte l'histoire de 4 hommes, et que foncièrement, c'est un roman. En écoutant Jean Rouault parler de Barthes tout à l'heure, il m'est venu cette citation. Barthes disait... Et un jour, je me suis rendu compte qu'il m'était devenu indifférent de n'être pas moderne. Et je me suis demandé si Audouin-Rouzeau n'écrivait pas... au fond, je me suis rendu compte à un moment qu'il m'était devenu indifférent d'être pas vraiment un historien. Et au fond, là, il nous fait une œuvre... Non, il nous fait un travail qui est évidemment de l'histoire. Mais moi, je ne suis pas historien, donc je ne veux pas dire si c'est vraiment de l'histoire. Je sais pas. Mais en tout cas, du point de vue romanesque, c'est parfaitement réussi. C'est réussi parce que ça nous raconte une tragédie absolument terrible, l'histoire de 4 hommes. Je suis un petit peu étonné qu'on ne parle pas beaucoup du premier qui s'appelle Eugène, mais c'est l'histoire quand même d'une tragédie terrible. C'est 4 hommes qui ont réussi, sur 4 générations, à se côtoyer, à s'aimer sans se le dire, à se détester. En fait, on est devant une sorte de tragédie, de la répétition, du drame père-fils, qui est un petit peu au cœur de ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Et cette histoire, elle est vraiment bouleversante parce qu'elle prend ces tandems d'hommes à chaque fois par un angle différent. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très émouvant. Et toute la partie, purement historienne, je la prenais à chaque fois comme un prétexte. Alors sûrement que c'est parce que j'ai désiré, moi, lire ce livre plus sous son angle romanesque que sous son angle historique, parce que simplement, on va toujours du côté le plus simple, et j'étais du côté où j'avais un peu plus de savoir-faire ou un peu plus de compétences. Alors, pourquoi j'insiste sur le côté plus romanesque que historien ? C'est parce que ce que vous venez de dire sur Ginsburg, correspond tout à fait, moi, à la conception que j'ai de mon travail. C'est ce qui fait mon travail de romancier, c'est de créer de l'émotion, c'est-à-dire de faire comprendre des choses, autant qu'on peut les faire comprendre, mais avant tout de le faire passer par des personnages, par ce qui leur arrive, par leur destinée, et donc avant tout par l'émotion. C'est le distinguo très juste que vous faisiez entre l'intelligence d'un côté et le ressenti, la sensation, etc. Et je trouve que c'est un livre dans lequel, à partir de cette généalogie terrible, tragique, de ces 4 hommes qui ne se comprennent pas, il y avait en permanence ce que j'appelle, moi, vraiment la réussite romanesque, c'est de faire passer de l'émotion. Donc, évidemment, cette émotion, elle nous dit quelque chose d'historique ou d'historien, mais elle nous emporte comme une vraie histoire, mais voyez, au sens narratif du terme. Alors, je vais pas seulement répéter ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais de temps en temps, il m'est venu des choses comme ça pendant la lecture. Et à un moment, j'étais frappé, c'est la page 63 pour ceux qui suivent, qui veulent prendre des notes. C'est le moment où le père et le fils, oui, je reviens un petit peu sur cette idée de la difficulté qu'il y a à comprendre de quelle manière l'auteur va passer du jeu au il, avec ce jeu permanent. Moi, j'ai mon hypothèse, j'ai l'impression qu'il distancie le temps narratif chaque fois que l'émotion se rapproche. Enfin bon, c'est encore une hypothèse romanesque. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était le moment où le père explique. C'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que Stéphane ou Doruso me dira que j'ai rien compris du tout, c'est fort possible. Explique ce qu'il croit être la motivation des hommes à partir à la guerre. Et il le dit très clairement. Il dit voilà, je ne me souviens pas qu'il ait tenté de discuter mon point de vue sur la réalité du sentiment national combattant, lui qui était pourtant convaincu qu'on avait décimé les soldats à raison d'un sur dix et qui pensait que les troupes n'avaient consenti que parce que les sous-officiers se tenaient dans leur dos, revolvers au poing. Alors je me suis dit bon, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. On va donc nous parler, vraisemblablement, du différent historique sur les motivations des gens à partir. Puis il n'en est plus question du tout. Alors ça c'est purement du romanesque. Vous voyez, vous créez une fausse piste. Vous dites, vous croyez avoir compris, vous vous déplacez. Bon, c'est en fait un petit peu la définition que vous donniez tout à l'heure de ce que serait un roman réussi. C'est, vous croyez dire quelque chose, ce que vous voulez, c'est complètement autre chose. C'est presque la définition du roman le plus réussi. Alors. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était de voir de quelle manière les ressorts romanesques étaient utilisés par Stéphane Audouin-Rouzeau. Je ne sais pas, moi, quel est le statut de l'interprétation dans l'histoire. Mais enfin, les interprétations multiples que Stéphane Audouin-Rouzeau fait sur ces personnages, c'est un point de vue purement romanesque. Je ne sais pas ce qui lui permet de dire, par exemple, « il se prend à espérer que Max... » Qui peut le savoir? Ça fait penser, de temps en temps, ça me faisait penser à Max Gallo, qui écrivait, je vois, oui, non, c'est vrai, non, qui écrit à ce coup, alors Napoléon pensa en lui-même. Bon, je me dis, comme il sait ce qu'a pensé Napoléon. Bon, et Audouin-Rouzeau, il use comme ça d'interprétation, et moi j'aime beaucoup ça parce que c'est le moment où on revendique d'avoir un point de vue sur les choses. C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'intelligence, il y a les textes qui nous disent un certain nombre de choses, des faits, c'est factuel, c'est des choses que l'on peut prouver, qu'on peut démontrer, et puis il y a ce que doit faire un historien, c'est à un moment, il doit forcément passer à l'interprétation. Et ce jeu de l'interprétation, de dire, voilà, je prends le risque de dire, voilà comment j'interprète les choses, comment je les comprends, ça, c'est me semble-t-il, à la jointure entre l'histoire et le romanesque, et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Vous avez remarqué que ma chaise, c'est soudainement, je ne sais pas, c'est volontaire,
non,
je ne sais pas.
Non.
Excusez-moi, la lumière est tombée, ma chaise tombe. Enfin,
je crois qu'il y avait. Il vous reste quelques minutes.
Il me reste quelques belles minutes devant moi, c'est ça. Bon. Alors, non, mais pour. Excusez-moi, je vous fais rire, c'est idiot. Alors, moi, je vais juste terminer sur ça, sur quelles sont les qualités romanesques d'Audouin-Rouzeau. C'est une chose qui m'intéresse, en fait. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup dans le roman, c'est qu'il malmène ses personnages. Ça, je trouve que, moi, c'est une chose importante pour le romancier. On a tendance... Enfin, moi, j'avais tendance beaucoup, dans mes premiers livres, à économiser mes personnages parce que je les aimais bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire des romans qui soient... Enfin, qui se tiennent un peu... il vaut mieux ne malmener un peu ses personnages, ne pas être trop gentil avec eux. Alors là, sur ce côté-là, Audouin-Rouzeau, je trouve là, il fait un boulot formidable parce qu'il malmène ses personnages au-delà, à commencer par lui-même, puisqu'il est un des personnages, il est le quatrième de la généalogie tragique qui va de Eugène à Robert, de Robert à Philippe et ensuite de Philippe à lui-même. Alors, il y a ça, l'interprétation, le statut de l'indécision, le mélange des genres, l'émotion. Et la tragédie de ces quatre hommes, avec des choses qui sont, à mon avis, très très porteuses sur le plan romanesque. l'alcoolisme de Philippe qui répond évidemment à celui d'Eugène, son propre grand-père, la manière dont les uns et les autres portent des jugements les uns sur les autres. En fait, c'est vous, je crois, tout à l'heure, qui avez parlé du conflit oedipien et de la rivalité entre les pères et les fils. On a là quelque chose de très émouvant qui est de quelle manière Philippe, par exemple, va se choisir un père de prédilection, enfin, se choisir un père symbolique chez Breton, quasiment sans voir son fils. Hein, de quelle manière, au fond, il tourne le dos à celui qui est son fils réel pour se tourner vers un père qui n'est qu'une hypothèse de père, quoi. Donc tout ça, c'est ce qui tisse la tragédie entre ces quatre hommes. Et sur ce plan-là, je trouve le roman, alors l'essai, le roman, le livre d'histoire, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est pas très bien ce que c'est, mais sur le plan romanesque, moi j'ai envie de dire, c'est vachement réussi. Voilà.
Merci. On va essayer de faire remonter votre
chaise. Oui, je vais essayer.
Puisque là, ce n'est pas encore fini. Donc. Bien, mais écoute, maintenant, Stéphane, il vous appartient, non pas de conclure, mais de nous dire ce que vous retirez de tout ce qui a été évoqué, toutes les questions qui ont été posées, ou les propositions qui ne vous agréent pas.
Ah, la tâche était évidemment particulièrement facile, comme vous en doutez. Enfin, j'ai l'impression que le vin étant tiré, maintenant il faut le boire. Et je vais donc tenter de le faire. Ça m'est d'autant plus difficile que c'est un livre dont je m'en suis rendu compte à deux ou trois reprises, dont il m'est extrêmement difficile de parler en public, pour des raisons évidemment que vous comprenez, qui d'ailleurs ont été énoncées ici ou là, hein, de biais par les différents intervenants, que je remercie vraiment au passage et très chaleureusement de leur présence. Un livre dont il m'est difficile de parler parce que ce que j'avais à dire, je l'ai écrit, et ce que je n'ai pas envie de dire, je ne l'ai pas écrit et je ne le dirai pas ce soir. Alors, j'ai été aussi très frappé par la perspicacité des différents intervenants, et perspicacité supérieure à la mienne, bien sûr, sur le texte en question. Et je vais commencer peut-être par le questionnement de Pierre Lemaître. Pas tout à fait un questionnement, mais disons sa lecture, son intervention, en disant que oui, il a raison, bien sûr, le livre avance masqué. Et c'est aussi une remarque qu'a fait Antoine Lilti, il avance masqué à mon insu. C'est un livre, en fait, qui avait pour but d'échapper au centenaire de la Grande Guerre, et quand Christophe Prochasson, ici présent, directeur des éditions de l'École, m'a demandé un ouvrage pour le centenaire de la Grande Guerre, afin que l'école des hautes études, donc je suis un fanatique, puisse avoir un manuscrit sur la Grande Guerre à présenter. Je me suis demandé comment les bras m'en sont tombés, et je me suis demandé comment échapper à une telle malédiction d'un ouvrage de plus au milieu d'une production qui serait une production de masse. Et donc j'ai proposé en une page le projet de ce livre, en espérant, bien sûr, en étant presque certain que ce projet serait refusé. Il a été accepté, donc, à ma grande surprise, et il a donc ensuite fallu l'écrire. C'est une aventure fréquente chez ceux qui écrivent des livres, et donc c'est ce que j'ai fait à l'été 2010, en 15 jours, 3 semaines seulement, ce qui m'a beaucoup surpris, sans aucune hésitation d'aucune sorte, ce qui montre que le livre était en fait déjà écrit. Un peu comme quand on perd un texte sur un ordinateur et qu'on doit le réécrire, passer le premier moment de découragement, on se rend compte que le texte a été déjà écrit. Ben, c'était exactement pareil. Et je me suis bien rendu compte, dans cette forme d'inconscience, bien sûr, je me suis bien rendu compte, et ceci répond, je pense, à plusieurs questions qui m'ont été posées, notamment par Antoine, justement, sur le renversement du livre, qui n'est pas conscient, que le livre, à la fin... pas tout à fait achevé, mais que le livre, je me suis bien rendu compte, avait une lame assez coupante. Il avait une lame assez coupante, et je me rends compte à travers les questions qui me sont posées, les remarques qui m'ont été faites, la lame est coupante, elle coupe, parce que le lecteur est censé avoir baissé sa garde. et il est frappé au moment où sa garde est la plus basse. Et ma grande, l'ayant senti au moins intuitivement, il m'a paru très, très important ensuite en affinant le livre, en l'introduisant, le concluant, en y accrochant quelques éléments supplémentaires, de ne pas émousser le tranchant de la lame. Alors, le livre avance masqué de ce point de vue, roman, hein, dit Pierre Lemaître. Je me garderai bien, finalement, de me considérer comme romancier. Prétendre être un romancier quand on est un historien, c'est comme prétendre qu'on est un gentleman. On ne peut pas, on n'est jamais un gentleman. On ne peut qu'essayer de le faire. Et en l'occurrence, je n'ai pas essayé de le faire. Et la question s'est posée, très honnêtement, de savoir si, au fond, je me débarrassais d'une méthodologie historienne. Hein, et en faisant un peu comme Rowe, qui a inventé la mort par les gaz, hein, de Joseph I, j'appelle Joseph I celui qui est mort pendant la Grande Guerre, et Joseph II, le neveu, hein, de Joseph I, qui portait son nom. Je me suis demandé, effectivement, un peu comme lui, qu'est-ce qui m'empêchait, effectivement, de combler, j'avais une très belle documentation écrite sur trois générations de haute qualité, ce qui concernait en particulier les écrits de mon père, qui est le véritable écrivain parmi tous ces personnages. Et je me suis demandé, si, au fond, pourquoi ne pas s'affranchir absolument d'un régime de vérité. Ce régime de vérité qui est le propre des historiens. Je ne dis pas que les historiens écrivent la vérité. Mais ils s'inscrivent dans la recherche d'un régime de vérité. Et finalement, il ne m'a pas fallu plus de 10 minutes, sans doute, pour décider que non, que je resterai au moins en apparence historien, d'où cette coquetterie inepte, à dire vrai, quand on y pense, mais très amusante, d'ajouter des notes de bas de page, extrêmement scrupuleuses, d'abord qui réduisent considérablement le lectorat potentiel, comme vous le savez, et qui vous empêchent, bien sûr, d'être considéré comme un roman, et donc d'avoir quelques prix que ce soit de ce côté, ce qui est excellent, puisque, comme vous le savez, les surréalistes... de la trahison suprême, bien sûr, vis-à-vis de mon père, n'aurait pas été de ce que j'ai écrit sur la Grande Guerre, mais d'obtenir un prix. Et au fond, les notes de bas de page sont insensées, puisque à quoi sert de donner des notes de bas de page très précises quand personne ne peut avoir accès à une documentation qui est purement personnelle. Et vous voyez ici, bien sûr, hein, le masque, hein, aussi une partie du masque historien du livre. Comment, au fond, je suis resté, je crois, du côté de l'histoire. Mais de quel type d'histoire ? François Hartog m'a posé une question tout à l'heure, sans me la poser de manière très directe, mais enfin, indirectement, elle était claire, hein, une phrase d'un texte que j'ai écrit, effectivement, pour un dialogue non intervenu, cette fois, avec Jean Rowe, à Rome, c'est au début de l'été, où j'ai plagié une citation de lui dans un débat qui avait eu lieu un peu auparavant à la Sorbonne, où j'ai très frappé que Jean Rowe dise « Moi, c'est les historiens qui m'ont sauvé ». Ça m'a paru très... Pour moi, les historiens sont bien incapables de sauver qui que ce soit. Donc j'ai été très surpris de cette phrase de Jean Rowe. Et il faisait allusion à ses lectures de Le Roi la Durie, de l'historiographie des années 70, de Le Roi la Durie, de Duby... Et au fond, à ce moment-là, je crois que je lui ai répondu, ou en tout cas, je ne sais pas si je lui ai répondu explicitement, mais je lui ai répondu en tout cas un peu plus tard, que moi, ce sont les champs d'honneur qui m'ont sauvé. Et je pense, donc, c'est pour ça que sa présence aujourd'hui me fait tellement plaisir et m'honore, je crois que je n'aurais jamais écrit, non seulement le livre dont on parle aujourd'hui, mais je n'aurais jamais écrit les livres que j'ai écrits en histoire sur la Première Guerre mondiale sans les champs d'honneur. Car c'est quand les champs d'honneur sont parus, j'étais jeune historien, donc capable encore de prendre un tournant, suffisamment souple peut-être pour le faire. Et au fond, je crois que les champs d'honneur sont un grand livre du deuil, un grand livre du deuil de guerre et un grand livre du deuil personnel de la Grande Guerre. Ceci nous ramène un peu au centenaire, par certains côtés. Et à la fin du livre, qui lui aussi avance masqué, à la fin du livre, ma stupeur, ma consternation a été grande. Non seulement les historiens n'ont jamais été capables historiens français et les historiens d'ailleurs internationaux n'ont jamais été capables d'écrire un livre sur le deuil de personnel de guerre. Je ne parle pas du deuil collectif, je ne parle pas des cérémonies, je ne parle pas des monuments aux morts, je parle du deuil personnel. Aucun historien n'avait été capable de répondre à cette question extrêmement simple. Comment a-t-on souffert de la mort à la guerre? Et devant la manière, non seulement aucun historien n'avait été capable de répondre à cette question, ce qui après tout était peut-être excusable, mais aucun historien en 90 n'avait été capable de concevoir même la question. Ceci a été pour moi extrêmement troublant, et j'ai mis quand même donc, quelques années, au total 25, pas toute chose près, hein, pour me colter avec la question que posaient les champs d'honneur. Voilà donc la réponse peut-être à l'interrogation hein, de François Hartog. Alors, j'en viens peut-être maintenant à la question, aux trois questions redoutables hein, que m'a posée Antoine Hilty en ouverture sur la prise de conscience. J'ai compris, je crois, assez tôt, par mes travaux d'historien, que quelque chose s'était passé dans l'expérience de guerre de Robert. Ça, je l'ai compris assez vite. Et que j'avais mieux compris Robert, que n'avait compris le père de Robert, que l'avait compris son fils, mon père, et que Robert ne s'était compris lui-même, qu'il n'avait pas les moyens de comprendre ce qui lui était arrivé hein, dans la Grande Guerre. Robert était sort de la guerre en héros intact, et c'était relativement rare, en tout cas intact physiquement, corporellement, et il n'avait pas les moyens de se penser autrement. Hein, que comme un héros rescapé, qui avait beaucoup de chance. Ce qu'il était devenu, à mon avis, il n'avait pas les moyens hein, de le savoir. Ça, je l'ai compris assez tôt. Le reste, je crois, je l'ai compris en écrivant le livre, en l'écrivant très rapidement. Cette question, effectivement, du retour du refoulé, au fond, c'est un livre, j'espère, qui poursuit aussi un autre adversaire que la Grande Guerre, qui poursuit une des choses qui m'anime peut-être le plus dans mon travail d'historien, et pas seulement d'ailleurs, qui est l'inconscience. J'ai horreur de l'inconscience. Alors, il y a une deuxième, quand Antoine Hilty parle du retour du refoulé, j'ai fait très attention, hein, moi qui ai le plus grand respect pour les sciences de la psyché, hein, de ne jamais employer le vocabulaire de ces sciences de la psyché, ni le traumatisme, ni le trauma, ni le refoulé, et même pas le déni. Mais c'est une coquetterie comme une autre, bien entendu. Je n'ai pas voulu psychiatriser mes personnages d'aucune manière. Et puis, il y a cette question très dure, très douloureuse, très intéressante que pose Antoine Hilty sur la fragilisation des conclusions de l'historien. Certains des gens qui travaillent avec moi, un peu plus jeunes que moi, l'ont bien senti, disant, un peu comme le vieux président Jules Grévy au ministre au début de la Troisième République, « Avez-vous bien songé au parti qui pourra en être tiré contre vous ?» J'y ai un tout petit peu songé, et pas trop. Il me semble que la discipline historique, et on va en venir aussi là aux questions peut-être de Laurence Campa, par accro ici, que la discipline historique a de ses grandes chances, et je le dis pour tous les historiens qui sont ici, ils ne sont peut-être pas d'accord avec moi, une de ses grandes chances, une de ses grandes forces, outre son ancienneté, c'est sa robustesse. La discipline historique est une discipline robuste, et c'est ce qui fait évidemment sa force. Elle a besoin, je crois, pour devenir intéressante, d'être beaucoup subvertie, et parfois subvertie de fond en comble. Et si j'ai raison, eh bien, il s'agit aussi de subvertir hein, son propre travail historien. Ou alors, l'opération sera évidemment extraordinairement malhonnête. Alors oui, bien sûr, Antoine, le travail que j'ai fait fragilise considérablement à mon travail d'historien, pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser à cette fin. Et à la limite, je suis plutôt heureux hein, qu'il le fragilise. En même temps, on pourrait se poser la question, dans l'historiographie, on pourrait se poser la question de la subjectivité, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas finalement, en engageant massivement sa propre subjectivité, qu'on atteint finalement une forme d'objectivation d'un autre type? J'ai beaucoup d'admiration pour une phrase de Jean Rau dans ce dernier ouvrage que j'ai personnellement énormément aimé, Un peu la guerre, mais ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais ça ne fait rien, on va le ramener un petit peu ici, où Jean Rau dit ceci: à un moment donné, le traitement de la syntaxe nous parle plus que des images d'archives et le choix des mots et les évictions du vocabulaire. Comment l'écriture a remplacé le style, par exemple, et tout ce que nous dit sur le pays, sa façon de se raconter et de ne pas. À quoi ce changement a vu de la forme narrative, enregistrant les tresseaux du siècle, je n'étais pas le mieux préparé. Je réponds un petit peu de biais hein, ici sur cette question hein, de l'articulation, de la tension hein, entre littérature et histoire. Il me semble que cet engagement de la subjectivité dans une écriture éventuellement autre hein, que l'écriture historienne, académique, classique, c'est peut-être le moyen de faire sens, de donner sens, et peu importe hein, si ceci détruit une partie hein, du travail accompli donc, dans les 30 ou 35 années antérieures. Je ne vais pas être trop long parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait un deuxième tour. Ça fait partie, je crois, du jeu. Activité profondément mélancolique, hein, a dit Laurence Campa tout à l'heure avec son élégance coutumière. Oui, bien sûr, c'est un livre, je pense que vous l'aurez senti, ceux qui l'ont lu, c'est un livre éperdu de regrets. Quand je dis que le livre avance masqué derrière tous les masques, car il y en a plusieurs qui se sont placés donc d'eux-mêmes, et que je n'ai pas placé consciemment sur le texte, il y a bien sûr derrière tous ces masques l'essentiel. Et l'essentiel, bien sûr, c'est une lettre au père, c'est une lettre à mon père, que j'aurais mieux fait d'ailleurs de lui écrire, donc de son vivant, à la place d'une autre que je lui ai écrite, et qui est un regret éternel.
Merci. Alors, comme vous avez pu le percevoir, ce premier tour, sinon, nous a mené sur des quantités de questions, bon, celle roman-histoire, bon, avec des positions très affirmées. Si j'ai lu ce livre, c'est parce que c'est un roman. Il m'a plu parce que c'est un bon roman. Bon. Et puis, des positions plus nuancées, c'est un livre d'entre-deux. Et pour vous, c'est aussi un livre d'entre-deux, je pense. Lilti, Antoine Lilti, qu'est-ce que ça fait à l'histoire qu'un livre comme cela ? Bon. Qui se prétend et qui se revendique au début et à la fin, comme livre d'histoire, avec jusqu'à cette coquetterie que Stéphane Audouin-Rousseau vient de rappeler, enfin, cette coquetterie, oui, qui est d'avoir des notes qui, précisément, ne servent à rien. Puisque, pourquoi mettons des notes ? Pour que le lecteur puisse aller y voir. Bon, et c'est le contrat, au fond. Je vous mets une note pour que vous puissiez aller y voir et donc refaire le chemin que j'ai fait en vous conduisant vers cette note. Bon. Là, le lecteur est seulement invité à lire la note et il n'est pas question pour lui de pouvoir refaire le parcours. Donc, quel est le... Justement, c'est coquetterie, oui, mais c'est plus que ça. c'est plus qu'une coquetterie ou moins qu'une coquetterie. Enfin, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Dans le... Je pense qu'on pourrait... Moi, j'ai été frappé par des quantités de choses, mais je vais en retenir une et puis repasser la parole aux uns et aux autres pour qu'ils reprennent ce qu'ils souhaitent reprendre dans tout ce qui a été dit. C'est finalement cette place importante du surréalisme. Et place importante du surréalisme pour Stéphane Audouin Rousseau, par son père, bien sûr. Et cet engagement, hein, puisqu'au fond, il ne s'est engagé dans rien, sauf dans le surréalisme. Hein, et avec c'est l'équivalent ou le succès d'année d'un engagement. Et la fin du surréalisme, l'effondrement, le délitement du surréalisme après 68, c'est aussi la défaite de son père. Et cette défaite de son père rejoue celle de Philippe, celle de son père Robert, celle de son père en 1940. Hein, parce qu'il y a aussi 40 qui intervient dans le parcours, évidemment. Et alors, il y a tout ce vocabulaire qui a été employé de type, après coup, refoulé, tout ce qu'on veut, mais il y a un autre vocabulaire, alors, auquel recourt volontiers Stéphane Audouin Rousseau, c'est celui de la géologie. Et il nous parle de failles, hein, et de failles qui rejouent. Et là, on a la faille qui rejoue du père, du grand-père au père, et ce que va s'efforcer par l'écriture historienne, justement, le petit-fils, c'est que la faille ne puisse pas rejouer. Alors, importance du surréalisme qui est tout aussi présent chez Jean Rouault. Et j'ai noté que dans l'exergue du livre Un peu la guerre, c'est une citation de Breton que vous donnez, hein, sur justement la guerre. Et qui se dit « pas de compromis possible avec un monde auquel une si atroce aventure n'avait rien appris ». Et je trouve que ça ouvre aussi une intéressante perspective sur ce cas, sur le rôle culturel du surréalisme par rapport à la guerre, par rapport à, et en allant jusqu'en 1968, et sur ce que les effets, au fond, de ce surréalisme sur les possibilités ou non d'écriture et les choix d'écriture. Bon, je ne veux pas parler davantage, et peut-être le plus simple, c'est de repasser la parole dans l'ordre précédent, sauf si quelqu'un veut, l'un d'entre vous souhaite intervenir immédiatement, pour non. Alors, Antoine, pour la suite de vos 10 pages.
Non, je vais revenir effectivement sur ce qui vient d'être dit. Et puisque le thème général, c'est littérature, histoire, je vais revenir un instant là-dessus. Je pense que la question de savoir si c'est un livre d'histoire ou un livre de littérature, de fiction, ou un roman, n'est pas une question essentielle, parce que ça, c'est une question consistant à mettre des bornes. En tout cas, de mon point de vue, mais c'est un point de vue historien, c'est un livre, je ne sais pas si c'est un livre d'histoire, mais c'est un livre d'historien. C'est très clairement un livre d'historien qui réfléchit avec toute une série d'outils qui sont ces historiens, à un rapport au passé, alors aussi, effectivement, et même sa manière d'écrire son récit de filiation est très nettement marqué par la question de l'histoire. Alors, on peut le lire comme un roman, comme l'a fait Pierre Lemaître, et on peut aussi le lire, je ne crois pas que c'est lui faire tellement violence, comme un essai d'épistémologie, c'est-à-dire comme une réflexion. Évidemment, si elle avait écrit essai d'épistémologie, pour le coup, ça était pire que les notes. Et je pense que Christophe Prochasson s'y serait opposé avec la dernière vigueur. Quelle histoire, c'est plus... Non, et en fait, de l'épistémologie en acte, c'est-à-dire qu'au sens où, non pas de faire un traité sur qu'est-ce que c'est que le rapport de l'historien à son savoir, qu'est-ce que c'est que l'objectivité, qu'est-ce que c'est que la subjectivité. Et c'est là que je... Mais, au contraire, cette réflexion-là, le rapport de l'historien à son savoir, m'est traité en action. Et là, c'est un geste extrêmement courageux, en se prenant soi-même comme l'objet de l'expérience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que au fur et à mesure que l'expérience avance, on voit bien que l'expérimentateur en devient l'objet. Là, je trouve que c'est un geste, de ce point de vue-là, très courageux. Et ce qui est très frappant, de ce point de vue-là, pour moi, c'est un geste d'historien qui se libère d'un certain nombre d'interdits pesant sur la discipline. Et je trouve que, moi aussi, parce que là, on a cité un peu la guerre, la lecture des deux livres en parallèle est extrêmement frappante parce qu'on a d'un côté le récit d'un écrivain qui se libère progressivement d'un certain nombre d'interdits qui pesaient sur la forme romanesque dans son rapport avec, justement, le référent historique dans sa manière de décrire, de dire le monde. Je trouve que le livre de Jean Roux, de ce point de vue-là, montre très très bien cette situation. Et de l'autre côté, on a le livre d'un historien qui se libère de l'interdit absolument symétrique. On a cité Barthes. Barthes avait écrit un article à la fin des années 50 sur littérature et histoire où il y avait un partage très net du côté de la littérature. On est du côté des formes, donc du côté purement du texte et l'histoire, et d'une appréhension du réel. Et ce qui s'est passé, je crois, de manière très, très frappante, depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est du côté des écrivains, une manière de réinvestir le potentiel de la littérature et notamment du roman pour dire le monde, y compris le monde historique, et du côté des historiens, une liberté beaucoup plus grande pour penser, pour réintroduire l'historien comme objet de son histoire. Et de ce point de vue-là, je rassure Stéphane, ma question était... Je ne pense pas que ça fragilise. Hein, j'ai laissé la question ouverte pour te permettre d'y répondre. Mais en réalité, moi, je pense que ça le renforce parce que ça introduit une dimension de réflexivité qui, loin d'être... qui resitue ce savoir comme un savoir conscient des conditions mêmes qui sont... c'est pas simplement qu'il rende possible, mais qui était à l'origine du désir même de ce savoir. Il n'y a pas de savoir sans désir de savoir. Voilà.
Merci.
C'est sûr que c'est en lisant le livre, on sent bien que Stéphane se livre à un exercice d'émancipation d'abord de son métier d'écrivain, d'historien. Voilà. Bon, ben c'est bon, c'est tout, ok, c'est terminé.
C'est bon.
Et qu'il y a évidemment la tentation de l'écrivain pour dire une chose, et je ne sais pas si vous avez senti, mais que lorsque Stéphane a terminé son intervention, il n'aurait pas pu aller plus loin parce qu'il avait un sanglot au fond de la gorge. Donc c'est ce sanglot-là qui demandait à s'exprimer et qui ne pouvait pas évidemment s'avancer avec tout l'arsenal de l'historien, puisque l'arsenal de l'historien, c'est donc ça appartient quand même au domaine scientifique. Il y a donc le régime donc de vérité dont on parlait tout à l'heure, et il n'est pas question évidemment de se ramener au milieu. Hein. Et qui peut se ramener au milieu? Évidemment, c'est l'écrivain, c'est l'auteur. Et on voit bien que ces notes en bas de page qui n'ont effectivement pas de sens, puisque, comme il a été dit, personne n'ira frapper à la porte de l'historien pour dire « au fait, j'aimerais bien vérifier si c'est un romancier », jouerait avec ça. C'est-à-dire qu'il trufferait son récit de notes en bas de page qui seraient purement fictionnelles. Je me suis amusé à ça, j'ai écrit un livre où, en utilisant des tas de citations et d'ouvrages très sérieux, les citations sont toutes fausses. Et il y a quelqu'un qui s'en est aperçu et qui m'a écrit une lettre d'insulte parce qu'il y avait cru de bout en bout et donc avait eu l'impression d'avoir été trompé. Sauf que c'était quand même bien un roman, donc a priori. Bon. Donc on voit bien que même le roman est toujours à flirter avec ce jeu de la vérité. Et que les notes en bas de page, là, qui arrivent avec le sérieux de l'historien, avec sa méthodologie, etc., sont en fait des petits trous de chaque côté du tricycle, parfaitement inefficaces, puisqu'elles ne reposent sur rien, puisqu'elles sont au-dessus du vide, n'est-ce pas ? Et donc, à mesure que le texte avance, il n'y a plus besoin de ces petits trous, c'est un dépouillement. Et on est effectivement très surpris et bouleversé quand on comprend la raison du texte, et que, alors qu'on a commencé avec une approche effectivement d'historien qui, cette fois, au lieu d'aller chercher ses sources au fort de Vincennes, prend la correspondance familiale et à partir de là va essayer de raconter la guerre 14 vue des archives familiales, ce qui est aussi quelque chose qui serait tout à fait légitime en restant dans le cadre de l'historien. Et puis on voit comment peu à peu, c'est un prétexte, c'est une prise en otage là aussi, mais en même temps qui fait sens, puisqu'on comprend très bien que cette fracture, cette faille, pour reprendre le terme géologique, créée par la Première Guerre mondiale, est à l'origine de toutes ces victimes collatérales qui sont la généalogie des fils. Et qu'à un moment donné, puisque l'horizon de la Première Guerre mondiale s'éloigne, elle s'éloigne avec le fils, avec le père de Stéphane, et puis elle s'éloigne encore plus avec Stéphane, il y a une obligation de ce que j'appelle de balai masque, d'aveu, et où cette Première Guerre est vue comme la source des maux d'une famille, tout simplement du massacre d'une famille, puisque quand même ce sont de vraies victimes collatérales de la Première Guerre, tous ces hommes-là, qui descendent le siècle pour arriver jusqu'à ce sanglot final qui étouffe l'historien.
Merci. Laurence Campa.
En vous écoutant, en fait, frappé non plus par les écarts, mais à nouveau par les liens, donc je crois qu'on va rester dans cette espèce de tension, justement, féconde, apparemment, puisque, tandis que Stéphane Audouard-Rousseau met des notes en bas de page qui sont, moi, je trouve, quasi burlesques, en quelque sorte, hein, qui sont pleines d'humour noir, on a l'impression que ça sonne comme des épitaphes, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller vérifier la source, mais quand on met une date, la date est en quelque sorte l'exhibition. L'exhibition de la date, en quelque sorte, ne fait pas sens ou fait sens vraiment à côté de ce qui se pratique d'habitude. Mais alors, d'un autre côté, justement, tandis que Stéphane Audouard-Rousseau fait ça, les écrivains, les romanciers citent leurs sources. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau, moi, je trouve. Ce qu'on a guère, chez Hugo, chez Vigny, bon, je ne remonte pas très très loin, on n'avait pas besoin de citer ses sources au public cultivé qui les reconnaissait quand même relativement facilement. Donc, je pose aussi la question du coup un peu à Pierre Lemaître, puisque vous citez vos sources à la fin d'Au revoir là-haut. Alors, j'ai pris ça un peu comme un making-of, comme on dit aujourd'hui peut-être. Hein, bon, voilà. J'ai pris ça aussi peut-être comme un gage de véridicité, en disant, ben voilà, ça s'appuie comme on dit vulgairement d'habitude sur des histoires vraies, des choses qui ont vraiment existé. Mais je me pose plutôt le statut de la présence de l'histoire dans votre propre travail. Et quand on regarde l'ordre dans lequel les choses s'avancent, alors autant justement le livre de Stéphane part de l'histoire et va vers la littérature, là vous partez aussi de l'histoire, mais de façon tout à fait différente pour aller vers la littérature, parce que vos premières sources sont quand même des sources historiques. Et après vous citez des romanciers qui vous ont précédé, parce que d'une certaine manière, moi je l'ai compris aussi comme ça, vous vous situez dans une histoire littéraire. Donc, pourquoi être redevable aux historiens ? Et alors, tout à l'heure, en finissant sur la résurrection, j'avais l'impression d'avoir un petit peu, comment dire, jeté un voile de gravité sur nos débats, et puis je me sentais un petit peu mystique, mais ensuite j'ai entendu parler de salut, les historiens m'ont sauvé, les écrivains m'ont sauvé, donc je me dis que finalement, après tout, pourquoi pas ? c'est à vous de me le dire. Et du coup, voilà, je pose aussi la question à Jean Rouault. Qu'est-ce que l'histoire sauve? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce salut? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et, bon, la littérature, je le comprends mieux dans l'autre sens, en fait, que dans ce sens-là. Voilà, je voudrais parler de ça après. Si on a le temps, je pourrais dire un mot du surréalisme. Mais je crois que c'est plus intéressant de savoir ce qui se fait. Non, vas-y.
Ça va être vite fait, parce que j'ai aucune réponse. Donc ça va être très, très vite fait. Dans mon travail, c'est en fait, c'est très prosaïque. C'est très, très prosaïque. J'ai des dettes vis-à-vis de ceux qui m'aident à comprendre les choses. Et comme j'essaye d'être un écrivain loyal, j'essaye d'être un intermédiaire honnête et loyal entre le temps d'aujourd'hui et ceux qui m'ont aidé à le comprendre. Donc il y a une part de loyauté simple, vous voyez, c'est très, très prosaïque, qui est j'ai lu un certain nombre de choses qui m'expliquent le temps sur lequel je travaille. Et il me paraît vraiment... Enfin, j'étais bien élevé. Voilà, j'ai été bien élevé. Et donc, quand j'ai un merci à dire, je le dis. Et puis, il y a autre chose, là, non plus du côté des historiens, que je cite en premier, puisque c'est eux qui me permettent d'abord de travailler. En fait, il y a trois sources. Il y a l'histoire, il y a la bibliographie, la documentation, que je distingue, et... Le troisième strate, c'est la littérature. Je ne vois pas qu'on passe trop longtemps de temps sur ça, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est le livre de Stéphane Audouin-Rousseau. Mais pour faire court, les historiens d'abord, parce que c'est ceux qui me permettent de comprendre le sujet dont je vais parler. La documentation ensuite, parce que c'est ceux qui m'aident à le faire, c'est la Bibliothèque nationale de France, c'est la base Gallica, donc je dis merci aussi à la base de données, pourquoi pas, enfin, c'est un exercice comme un autre. Et puis après, il y a la littérature, parce que chaque fois que j'écris, il me vient un certain nombre de choses, d'images, de situations. Tout à l'heure, on parlait de Proust, bon, je m'amuse dans une scène à faire une parodie de la scène où... Bazin rentre dans le salon d'Oriane. Alors je m'amuse à ça, donc je cite Proust. D'abord, ça fait savant, vous voyez, donc je peux briller à peu près.
Est-ce que vous avez besoin de ça?
Ça m'amusait. Ah, voilà. Oui, moi, je m'amuse beaucoup dans mon métier. Donc, comme ça m'amusait, je l'ai fait. Et voilà, je cite mes sources. Mais vous avez bien vu, c'est ma manière à moi de m'inscrire modestement dans un courant littéraire. C'est-à-dire, j'écris avec ce que j'ai lu, j'écris avec ce que je suis. Et ce que je suis, c'est en grande partie la littérature qui l'a fait. Et donc, il me paraît assez normal, si vous voulez, de m'inscrire dans cette littérature au fur et à mesure où elle me vient sous la plume, d'en marquer la trace. Enfin, ça me semble... Alors, je voudrais juste revenir sur un mot que vous avez dit sur les notes en bas de page. Vous avez assez raison de parler du burlesque. Parce que moi, ma préférée, elle est page 67. Non, vous irez voir. Non, je vais la citer, si vous permettez. Elle est formidable, celle-là. Non, je l'adore. Hein? Alors, voilà. « Il voulut bien me reconnaître ou feindre de me, mais l'autobus arrivait. » Et alors, Stéphane Edouard Rousseau donc, cite cette phrase qui est écrite par son père, au moment de la rencontre ratée avec Breton. Alors, donc, la phrase, c'est « Il voulut bien me reconnaître ou feindre de me, mais l'autobus arrivait. » Et au cas où on n'aurait pas compris, il ajoute en bas de page, là, c'est lui qui l'ajoute, il dit « L'élision du verbe est ici. » Si volontaire. J'ai envie de lui dire, ouais, merci Stéphane, merci beaucoup. D'abord de la confiance que vous faites dans mon intelligence. Voilà. Non mais c'est franchement, oui.
C'est parce qu'il sait qu'il a aussi des lecteurs historiens, c'est pour ça.
Voilà. Mais j'ai envie de dire, franchement, quand vous serez complètement un romancier, vous pourrez vous libérer de tout ça. Ça n'a plus aucune importance. La deuxième chose, c'est le statut de l'italique. Alors ça, là, par contre, bon, là, j'ai plaisir à plaisanter avec Stéphane, mais le statut de l'italique dans le texte qui m'a beaucoup intéressé, c'est le souci historien de bien se faire comprendre. Moi, j'aurais été votre éditeur. Je sais pas qui est votre éditeur, Stéphane, mais j'aurais été votre éditeur. Je vous aurais dit, chaque fois, il y a italique, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon mot. Que si vous faites un italique, c'est que vous voulez être sûr qu'on a bien compris, voyez. Et à mon avis, l'italique, c'est un subterfuge qui vient peut-être à la place du bon mot. Mais pourquoi quand je dis du bon mot, du mot peut-être qui vous aurait semblé plus exact, c'est ça que je veux dire. C'est une question d'intention narrative. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on est effectivement devant un livre d'histoire, c'est-à-dire il y a les textes qui sont cités, les soulignés qui sont là pour flécher le sens. Quand on veut faire comprendre quelque chose, il faut être sûr de bien le dire. Et donc, on utilise tous les moyens pour le faire comprendre. Et donc, les italiques, les bas de page, quoi qu'on en dise, au-delà de la plaisanterie qu'on a usage de faire en pareil cas... au fond, c'est le souci de se faire comprendre et de faire comprendre une histoire. Moi, ce qui m'a semblé encore une fois réussi, et je terminerai là-dessus, ce qui m'a semblé vraiment réussi, c'est que cette partie historique, franchement, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur, c'est pas cette partie-là qui m'a le plus appris de choses. Franchement, ce qui m'apprend le plus de choses, c'est une histoire que, franchement, je n'aurais jamais imaginé, mais quel dommage! Quel dommage que ça soit à vous, que ça soit venu cette idée, et pas à Jean-Roux ou à moi. Parce que. Non, mais oui, parce que. Non, mais c'est vrai. Parce que votre bouquin, il est formidable, mais vraiment, on aurait pu faire vraiment un bouquin de 800 pages passionnant sur. Quel gâchis! 800 pages passionnantes sur 4 générations d'hommes qui ne se comprennent pas. Franchement, à côté de la tragédie grecque, c'est de la rigolade. Hein.
Ça fait pas 800 pages. Merci. Est-ce que sur la question du rapport, enfin de l'usage de l'histoire posé par Laurence Campin, vous souhaitez, Jean-Roux, dire quelque chose ?
Non, c'est juste pour préciser la citation là, que j'attendais avec effroi que donnait Stéphane en disant qu'est-ce que j'ai bien pu dire. Et que cette histoire là que les historiens m'avaient sauvée. Donc on est dans les années 70, le roman est mort. Il n'est plus question de raconter l'histoire, bien sûr, puisque il n'est plus que l'aventure du texte. Donc cette question de la forme là, dont on parlait tout à l'heure, que Barthes avait... il y avait la herse qui était tombée entre le récit et la forme, et les écrivains n'avaient plus que la forme. Hein, ceux, évidemment, qui se piquaient de modernité littéraire. Et donc les historiens vivaient un phénomène inverse pendant ce temps-là, c'est-à-dire que les historiens, donc on en avait fini avec les historiens de papa, et que c'était donc l'école des annales, là ça m'a fait drôle d'entendre parler des annales, et avec leurs têtes d'affiche qui étaient Brodel, Duby, le roi Ladurie, Le Goff, etc. Et ils en avaient un peu marre de dépouiller les actes depuis 8 siècles, et ils se lâchaient un petit peu, et on a vu Duby écrire, et ça a été, là aussi, ça a dû être pour lui à la fois un exercice narquois et aussi une façon de s'émanciper de cette chape de positivisme-là qui pesait sur les annales, écrire donc la bataille de Bouvines, alors que ces gens-là avaient condamné l'histoire événementielle, et ils s'autorisaient à ce genre d'écart. C'est-à-dire que par rapport au dogme, ils s'affranchissaient du dogme pour aller vers ce qu'ils avaient dénoncé auparavant. Donc c'était une très très bonne nouvelle au moment où le dogme de la littérature, de la théorie littéraire, empêchait le récit. Et là où donc j'ai été... À partir du moment où les livres qui m'intéressaient n'étaient quasiment plus lisibles, ceux qui concernaient la modernité littéraire, j'ai trouvé ces chaisons-là, qui sont tous en plus de remarquables écrivains. Duby est un styliste extraordinaire. Brodel, il n'est pas manchot non plus. Et donc, ils avaient, en gardant une forme syntaxique parfaitement traditionnelle, parfaitement académique, Duby avec ses renversements de propositions dont il use beaucoup et qui donnent un effet stylistique formidable, avec des moyens tout à fait traditionnels, était en train de modifier cette façon de raconter, de réinventer le récit. Et si le Montaillou a été important, la lecture de Montaillou a été importante pour moi, c'est que le procédé de Le Roi Ladurie, c'est à partir des textes comme ça de l'inquisiteur des registres de l'inquisiteur de Foix, il a voulu reconstituer la vie du village, de ce village comme ça au XIIe siècle, Montaillou. Et l'écrivant, le lisant, mon Dieu, on était la fin des années 80, il était paru un peu avant, mais enfin je l'ai lu plus tardivement, j'ai compris que ce que lui avait fait avec Montaillou, c'est-à-dire une galerie de personnages formidables, puisque tous les personnages qui passent devant l'inquisiteur sont tous recréés, réinventés par le roi Ladurie, eh bien au fond je pouvais faire pareil avec mon village natal, et c'est ce qui a donné... Les Chants d'honneur. Avec, vous prenez la dimension spirituelle avec Duby, vous prenez là aussi avec Bouvines, la littérature de guerre, avec l'identité de la France, les livres de Brodel, et bien vous mettez tout ça ensemble, vous mettez une image pieuse au milieu qui s'appelle Les Chants d'honneur, et puis vous avez un roman.
Merci. Il nous reste assez peu de temps.
Est-ce que je peux répondre sur un ou deux points?
Si on...
oui, sur l'italique, si... alors, uniquement.
Non, non.
Non, alors, non. Non.
L'italique, c'était impossible pour moi.
Oui, non, répond, qu'on ait le temps de quand même de, qu'une ou deux questions puissent être posées.
Ça se passera.
Non, mais vas-y.
Alors, sur l'italique, je vais être très, très rapide. Finalement, personne n'a pris au sérieux la proposition de débat sur le surréalisme que proposait François Hartog. Je le déplore, mais je l'admets. Sur l'italique, oui. Il se trouve que les surréalistes, oui, utilisaient beaucoup l'italique, breton, c'était un tic, au fond, surréaliste. Et mon père l'utilisait énormément. Mon père, qui était effectivement certainement un écrivain de valeur, mais qui, considérant que c'était, pour la littérature, c'est simple, c'était Rimbaud ou Chateaubriand ou rien, eh ben, évidemment, c'était rien. Et c'est là que un malheureux orgueil hein, qui fait vraiment la malédiction de ma famille. Et mon père, donc, mettait beaucoup d'italique, et dans une écriture que je n'approuve pas complètement, que je trouve un peu affêtée, à dire vrai, aujourd'hui, alors que lui m'a appris, au contraire, à écrire avec le moins de mots possible. Mais il faut bien qu'il y ait des hommages de temps à autre, et donc je mets les italiques par hommage à mon père. Et donc, de temps en temps, de manière presque arbitraire, bien, je mets une italique, et c'est un hommage comme un autre, et c'est une histoire donc entre lui et moi, et non pas un moyen de souligner particulièrement effectivement un point, mais juste une,
là, juste une communication. Une note, vous auriez dû mettre une note.
Et là, j'aurais
dû mettre page.
Oui.
Juste pour d'abord remercier tous les intervenants, c'était absolument passionnant. On a beaucoup parlé de la dimension historique du livre de Stéphane, bien entendu. La dimension romanesque. Laurence Campa, je l'en remercie, a fait ressortir ce quoi Jean Roux a mis le mot de dimension spirituelle. Et c'est pour ça que je me posais la question de savoir si c'était un hasard que les deux premiers mots de l'invitation d'aujourd'hui, c'était adieu.
Bon, voilà qui glace l'assemblée. Non.
Juste pour cet adieu, quand j'ai lu l'adieu final, là, c'était, je n'ai plus besoin de la guerre. Voilà. Elle m'a amené à dire ce que j'avais envie de dire. Adieu la guerre.
Bon, écoutez, merci à vous tous, merci aux intervenants, bien entendu.